Eh bien, toujours en direct du Parc des Mets, Romain Land nous accueille pour cet événement de ce week-end, courir pour Dany, pour France Alzheimer 41. Julien et ses acolytes courent toujours.
On ne va pas les arrêter.
On ne va pas les arrêter. C'est parti pour 24 heures, en tout cas pour Julien, ça c'est sûr.
Mais on a déjà fait plus d'une heure trente de course.
Hein. Mais ouais, c'est pas mal. Hein. C'est vrai que ça passe vite en plus.
Et en plus, ouais. Enfin,
surtout
dire,
pour nous qui sommes assis.
Il y a un truc qui est vachement agréable, c'est que ça fait moins de bruit que les 24 heures du Mans.
C'est clair. Alors, bien sûr, on invite tout le monde à venir nous rejoindre. On a eu peur de la pluie, mais en fait, c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas. Le cadre est vraiment très sympathique. Alors, on a parlé avec le président de France Alzheimer sur le plateau.
Monsieur Jean Heurtaud.
Et cette fois-ci, nous sommes en compagnie de bénévoles, toujours de l'association France Alzheimer 41.
Mais Monsieur Jean Heurtaud est bénévole aussi.
Et toujours bénévole. Ouais. Et donc nous sommes avec Madame Mireille Rose. Bonjour Madame.
Bonjour Madame.
Et Monsieur Daniel Robert. Bonjour Monsieur.
Bonjour.
Voilà. Alors vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous faites au sein de l'association. Monsieur Daniel Robert, peut-être qu'on peut commencer par vous. Vous êtes bénévole et vice-président
de l'antenne de Blois.
Voilà. Oui. Et vous animez tous les mercredis après-midi un atelier mémoire.
Voilà.
Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer en quoi ça consiste ?
Tout à fait. Donc, nous accueillons les malades à 14h30. Généralement, ces malades sont accompagnés des aidants. Donc les aidants nous déposent leurs malades et ensuite les aidants partent faire leurs courses et puis on a après-midi de libre. Donc la séance commence à 14h30 à la Roselière et se termine à 17h30. Alors le déroulement de l'après-midi, on commence par faire un atelier mémoire. Alors l'atelier mémoire, généralement, ça peut être de la mémoire visuelle, c'est-à-dire que je projette des objets sur un écran. Ces objets, on les laisse pendant 5 minutes et les gens doivent visualiser ce qu'il y a. Après, on éteint l'écran et on leur demande ce qu'ils ont vu sur cet écran. Il y a d'autres exercices, des petites opérations de mathématiques, d'arithmétique, des additions, des multiplications, des divisions, mais très très simples. On leur demande de faire ces opérations. Bien sûr, il faut savoir que pratiquement chaque malade un bénévole avec, à côté. Hein.
Ah oui.
Donc,
vous êtes là pour animer et chaque
malade
personne
a son bénévole à côté pour l'aider.
Est-ce qu'on peut dire que c'est presque un programme individualisé par personne ?
Oui, tout à fait.
Ouais,
oui.
D'accord.
Parce qu'il faut savoir que les malades, il ne faut surtout pas les laisser dans l'échec. Donc, le bénévole, son rôle, c'est de l'aider et même à la limite. De lui souffler un peu la réponse. Alors également, maintenant, ce qu'on fait, on cherche à faire écrire les gens aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont encore la possibilité d'écrire et ils aiment bien l'écriture. Alors on les fait écrire quelques mots, quelques phrases. Donc voilà, cet atelier dure à peu près trois quarts d'heure. Parce qu'au-delà de trois quarts d'heure, souvent les gens quand même sont fatigués. Hein, parce qu'il faut savoir que ce sont des malades. Hein, donc,
oui. Ça leur demande beaucoup d'attention.
Oui, tout à fait. Oui. Et puis beaucoup d'efforts aussi.
Beaucoup d'efforts,
Alors, on s'aperçoit quand même d'une chose, c'est que la mémoire immédiate, ils ne l'ont pratiquement plus pour certains malades. Par contre, ce sont des gens qui n'ont pas oublié leur temps où ils avaient 20 ans ou 30 ans. Ils n'ont pas oublié ce moment-là. Parce que c'est... Vous verrez qu'après, on parle de chansons. Bien sûr, les chansons, ce sont des chansons de leur époque que l'on chante. Et souvent, ils connaissent bien les paroles. Ce sont des chansons qu'ils ont apprises dans leur jeune temps. Et ces chansons sont restées dans la mémoire. Alors, ensuite, après cet atelier mémoire, généralement, il y a des jeux. Ça peut être des dominos, ça peut être des échecs. Pas des échecs, du Scrabble. Oui. Après ces jeux, il y a un goûter, généralement. Alors, le goûter est composé d'un verre de jus de fruits avec une compote et un petit gâteau.
Donc, alors, moment de partage oui. Pour clore un peu l'animation.
Pas tout à fait.
Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que quelquefois, Mireille intervient. Mireille fait faire de la gymnastique aux patients, aux malades. Donc, c'est notre prof de gym.
Mireille, elle a l'air de faire beaucoup de choses au sein de l'association.
Donc, elle fait faire de la gymnastique aux gens. Et puis, bon, on peut faire des jeux aussi, un jeu de qui. Et on termine toujours par les chansons. La séance se termine par les chansons.
Alors, si on veut venir vous voir, enfin, si on est dans le cas où quelqu'un de notre famille est atteint de la maladie, si on veut pouvoir vous amener cette personne, est-ce qu'il faut vous téléphoner avant ? Est-ce qu'il y a un nombre maximum de personnes qui participent à cet atelier ?
Non, il n'y a pas de limitation au point de vue personne.
D'accord.
Donc, pour venir, il suffit de téléphoner. On a un numéro de téléphone. S'il n'y a personne au bout, vous laissez un message. Et puis, généralement, ce que font les accompagnateurs, ils restent une séance pour voir comment ça se passe. Et puis, en même temps, ça conforte un peu aussi le malade.
Bien sûr.
Parce que le malade n'est pas abandonné d'un seul coup.
Ouais.
Et puis après, ma foi, le malade, il s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il y a un groupe là avec des bénévoles et il y a une bonne ambiance. Et généralement, les malades reviennent facilement, sans problème.
Ouais, vous avez un effectif stable qui se reproduit.
Voilà, tout à fait. En bénévole, pour l'instant, on souhaite toujours avoir des bénévoles de plus parce que les bénévoles ne sont pas forcément libres tous les mercredis après-midi. Ils peuvent avoir des obligations. Mais enfin, en principe, on arrive toujours à avoir un bénévole par malade.
Et dans votre antenne, vous recevez par mercredi après-midi combien de malades aussi ?
Actuellement, nous avons 14 personnes inscrites pour le mercredi après-midi, mais ces 14 personnes ne sont pas toujours présentes tous les mercredis. Généralement, ça tourne entre une dizaine de personnes.
D'accord.
Est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous, maintenant vous, ça fait longtemps que vous faites ça, j'imagine, est-ce que vous avez vu disons, je ne sais pas si on peut parler de progression chez certains malades, est-ce qu'il y a eu des changements notoires, ou c'est vraiment, comment dire, comment vous percevez cet atelier en fait,
c'est une maladie qui régresse par palier,
je dirais. Voilà, c'est ce que nous disait le docteur Mercier tout à l'heure.
C'est-à-dire que pendant plusieurs années, vous avez un malade qui va rester stable. Et puis d'un seul coup, il va perdre. Donc il va atteindre un palier encore inférieur. Et puis après, bon, il y a des gens qui ne peuvent plus venir. Donc après, les gens sont placés en EHPAD
Parce que là, cet atelier, ça s'adresse aussi uniquement aux gens qui sont encore chez eux, encadrés par les aidants, par leur famille.
Absolument, oui.
Voilà. Et donc le gros avantage pour les aidants, c'est que lors de cette période, ils ont un temps libre, entre guillemets.
Ils peuvent faire leurs courses, faire leurs
occupations personnelles
qu'ils
ont beaucoup de mal à faire les autres jours.
Oui, parce que bon, généralement, les malades quand même qui viennent chez nous demande une attention particulière et une présence permanente d'un aidant parce que ces gens n'ont plus l'orientation ni la mémoire malheureusement.
Et tout à l'heure vous disiez une chose intéressante, là vous disiez que désormais vous preniez le temps éventuellement de les faire écrire pour ceux qui aimaient ça. Est-ce que dans l'évolution de la maladie, est-ce qu'il y a une érosion de cette écriture assez rapide, très rapidement, on abandonne l'idée de
l'écrire. Non, parce que jusqu'à présent, les malades qui écrivent, écrivent encore. C'est-à-dire qu'on a des malades depuis 2-3 ans qui continuent d'écrire. Par contre, il y a des gens qui sont arrivés, ils ne veulent plus écrire. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne savent plus écrire, mais ils ont peut-être peur de faire voir qu'ils ont beaucoup perdu et donc dans ce cas-là.
Donc il y a quand même, pour peut-être ces cas-là, c'est une prise de conscience de la dérive.
On a eu des gens aussi qui aimaient colorier. Vous savez, on leur donnait des dessins coloriés, ils aimaient ça. Il y en a eu une petite dame il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, qui est placée maintenant aussi, qui aimait colorier.
Et lorsque les gens passe à l'écriture, est-ce que ils traitent de sujets de leur choix ou ils écrivent ce qu'ils veulent en fait.
Voilà, c'est ça. Parce qu'au bout d'un moment, quand même, on arrive à percevoir chez les malades ce qu'ils aiment faire ou ne pas faire. Alors évidemment, Ce qu'ils n'aiment pas faire, on ne leur fait pas faire, parce que c'est là qu'on les met en échec, et surtout pas. Donc on fait toujours en sorte qu'ils soient dans un milieu où ils savent faire encore. Voilà.
Et dans l'écriture, les sujets récurrents, les gens se replongent dans leur jeunesse aussi, généralement par l'écriture.
Oui, tout à fait. Ouais. Et puis bon, quand ils ont terminé, on leur dit que c'est très bien, que on les encourage, quoi.
Alors, merci. Oui, une dernière chose. Oui.
Ah oui, oui. Ah. J'oubliais. Ah. J'oubliais tous les deux mois, je crois, c'est tous les deux mois.
Oui.
On a une esthéticienne qui vient et donc qui fait quelques soins de beauté aux patients. Et c'est très apprécié.
Ah oui.
Alors en même temps, c'est une esthéticienne qui a été formée, je crois, pour les malades. Donc elle leur masse le visage, elle leur masse les mains et généralement les gens sont super contents. Ouais. Et voilà.
Ça va, ils se laissent faire.
Et voilà, tout à fait, c'est vrai.
Ils se laissent toucher parce que c'est pas évident.
Non, mais on s'aperçoit d'une chose, c'est que c'est une chose très importante pour les malades. Pas pour les malades d'Alzheimer, hein. C'est très important. Ouais. Ils passent 10 minutes, un quart d'heure sur un fauteuil, se faire masser. Donc pour eux, c'est une détente et ils sont très contents. J'oubliais aussi une chose, c'est que tous les ans, on fait une sortie. Bénévoles, patients et aidants.
Et ça peut être... vous pouvez aller loin, vous pouvez aller...
Non, généralement, ça,
vous restez dans le coin.
Dans la région.
Ouais.
L'an dernier, on a fait une sortie en Sologne. Avec des promenades en calèche. Donc on se retrouve tous aidants, bénévoles et malades.
L'objectif, c'est de passer un temps commun, tous ensemble.
Et puis en même temps, ça permet aussi, en aidant, de pouvoir communiquer.
Bien sûr.
Oui, d'échanger.
D'ailleurs, au point de vue communication, Mireille pourra vous en parler, puisqu'elle anime un groupe de parole.
Oui.
Donc elle pourra vous en causer un peu plus que moi.
Voilà. Parfaite transition, encore une fois.
Voilà.
Il y a des temps de parole pour les aidants.
Oui, Mireille, vous pouvez nous expliquer. Vous animez un groupe parole et communication. Et vous nous expliquerez aussi ce que vous faites au niveau de la formation. Dans un deuxième temps.
Tout à fait. Oui, parce que disons que ça fait 17 ans que je suis à l'association. J'ai été longtemps vice-présidente. Mais vu l'ampleur que ça prenait, je ne pouvais plus faire les deux. J'ai laissé ma vice-présidence et pour me mettre dans la communication et le groupe de parole qui a été demandé et qui marche très, très bien au niveau de Blois. On a beaucoup, beaucoup d'aidants.
Donc ça, c'est une réunion hebdomadaire ?
C'est tous les deuxièmes lundis de chaque mois, animée par une psychologue qui est formidable. Elle s'appelle Agathe Flotte. C'est une psychologue qui nous vient de Montoire, qui est vraiment formidable. Moi, ça fait 7 ans que je suis avec elle, que je travaille. Et vraiment, c'est formidable. On arrive à faire, parce qu'il faut vous dire que de plus en plus, il nous arrive des aidants, mais dans une détresse que moi, je n'avais pas vue au début. Au début, ce n'était pas comme ça. Mais là, maintenant, c'est vraiment catastrophique. C'est vraiment des détresses.
Comment vous pouvez l'expliquer qu'il y ait cette évolution qui va dans le mauvais sens?
On essaie de comprendre. On essaie de comprendre parce que d'abord, de plus en plus, on a de malades jeunes. Parce que moi, quand j'ai commencé, 17 ans, on avait des gens qui avaient 75, 80 ans. Maintenant, nous en voyons de 60 ans, c'est courant. Nous avons eu 47 ans. Nous en avons eu des 50 et de plus en plus de jeunes. Alors, qui dit malade jeune dit de plus en plus des aidants dans le désarroi.
Est-ce que vous pensez aussi que ça peut être parce que on en parle plus aussi de cette maladie?
Peut-être.
Et que du coup la parole se libère un peu autour de ça.
Je pense.
Ce qui est plutôt bien.
Tout à fait. D'où notre importance d'animer ces groupes de parole. Parce que, en fait, vous avez, comme vous a dit Daniel, au début, on reçoit des coups de téléphone. Bon, chaque coup de téléphone est rappelé, parce qu'on est sur répondeur et automatiquement, il n'y a pas une personne en permanence, est rappelé. Et c'est à ce moment-là qu'on prend contact avec les personnes. Et soit que c'est pour l'accueil ou soit que c'est pour les groupes de parole. Mais je m'aperçois, c'est de plus en plus pour les groupes de parole ou pour avoir des renseignements catastrophes ou des choses comme ça. Et on n'abandonne jamais les gens. C'est-à-dire que moi, je laisse mes numéros de téléphone parce qu'on sent quelquefois, c'est dramatique quelquefois, on sent vraiment qu'il ne faut pas abandonner ces gens-là, ils peuvent se passer n'importe quoi. On a eu des cas critiques, un jour avec la psychologue, on est parti du groupe, on n'était vraiment pas tranquille. Et si bien que le lendemain, j'ai rappelé les gens, il faut les suivre ces gens-là. Et on arrive en les suivant, à les aider à prendre des décisions qui sont parfois très difficiles. Il faut en arriver à les décider au placement, parce que quand il y a de la violence, ça, il y a beaucoup de violence, choses comme ça, les gens sont vraiment en danger, il ne faut pas les laisser comme ça.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de culpabilité de la part des aidants, voilà. Et donc ils n'osent pas en fait franchir le pas de demander ni de l'aide, ni effectivement un éventuel placement.
Tout à fait. Alors là, il faut dire qu'il y a tout qui se grève quand on demande un placement. Ah oui, mais on n'en a pas les moyens. Le retrouve souvent. On les aide aussi à faire les démarches, de voir tout ce qu'ils ont droit et tout ça.
Le côté administratif.
Vivre autonome, avec Vivre Autonome, Emma et tout ça, on communique beaucoup. Et suite à ça, on va voir tout ce qu'ils ont droit et après, on fait un point. Alors, souvent de fois, malheureusement, les gens n'ont qu'une solution, c'est vendre leur maison. Ça, on le rencontre de plus en plus. Et là, la décision est dure à prendre. Je peux vous dire qu'il y a des gens, pour eux, ça leur crève le cœur. Parce que, vous vous rendez compte, c'est mon mari qui a construit cette maison. C'est mon mari qui a tout mis là-dedans. Ouais. Il arrive à la retraite. Il faut que je vende cette maison pour...
C'est la fin d'un monde.
C'est la fin d'un monde.
Ouais. C'est des histoires de vie.
Alors, on se retrouve dans des détresses, vraiment...
Ce groupe parole et communication que vous animez, oui. En coopération avec cette psychologue, oui. Ça sert à faire...
À désamorcer.
Et aussi quelque chose de très concret.
Voilà, il faut sortir, il faut dire ça, on va partir sur du positif.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Parce qu'il ne faut pas dire raconter n'importe quoi.
Non.
Ces gens-là, ils attendent du positif. Alors, en général, on fonctionne, on est 8-10 personnes. C'est vraiment le maximum que l'on peut avoir. Parce que vous avez des personnes qui vont revenir, qu'on connaît déjà un petit peu, qu'on suit. Mais quand vous avez 2-3 cas nouveaux, ça nous prend du temps. Et en réalité, c'est de 14h30 à 16h30, mais... On fait plus d'une heure de plus des fois, hein, souvent, parce que
il y a besoin. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des entretiens individuels, ouais, parce que la situation ouais, était vraiment
souvent,
comme vous disiez tout à l'heure,
de plus en plus.
Donc vous sortez du cadre de votre après-midi.
Ça prend de l'ampleur. Ouais. J'ai vu un soir une personne qui m'a téléphoné dans une détresse vraiment pas possible, amener des battues, tout, bon, je l'aidais.
Vous êtes dans un rôle d'assistante sociale ?
Non.
En quelque sorte
Non, c'est pas... Mais enfin...
Vous dites que vous êtes là pour positiver, vous êtes là aussi pour donner des solutions,
voilà,
j'imagine.
C'est ça.
Des chemins
c'est ça.
À suivre
aider,
pour...
Aider les gens, parce que vraiment, c'est dramatique.
Oui, on entend que... Oui, effectivement, on en parlait tout à l'heure, on entend que c'est une situation
c'est
compliquée. Hein,
ouais, en ouais. ce moment...
Heureusement que vous êtes là. Il y a des gens comme vous.
Et sur ces temps de parole, il y a des gens qui reviennent de semaine en semaine longtemps.
On en a qu'on suit depuis très longtemps.
D'accord.
Et on a eu même des personnes que leur mari est décédé. Ils reviennent nous voir de temps en temps et toujours nous remercier ou un petit coup de téléphone.
Il y a des liens profonds qui se créent.
Ouais. c'est ça. C'est ça. Et si vous les voyez entre aidants, en fait, ils se soudent. Ils se soudent. Ils essaient de se soutenir aussi les uns les autres. C'est vraiment, on sent qu'on arrive à faire un.
Oui, voilà, c'est ça.
Et ça, c'est très important.
Ils peuvent éventuellement se revoir à l'extérieur.
Ah oui, il y en a plein qui sont devenus amis et qui s'aident les uns aux autres. Vous voyez,
ça crée du lien, quoi.
Voilà, c'est ça.
C'est une chaîne de solidarité qui est super. Et alors, donc, en plus de votre travail d'assistante sociale, en gros, vous êtes aussi.
Je suis une ancienne soignante, mais pas une assistante sociale.
Mais vous êtes aussi donc prof de gym, c'est ça?
Là, c'est un petit peu,
c'est le côté détente.
Voilà. Et puis, il nous a été demandé aussi par des. Comme c'est pas la DMR, mais des. Si, on a intervenu en Sologne pour une ADMR pour donner des conseils aux assistantes de vie, parce qu'en fait, dans les assistantes de vie, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas formés. Qui manquent de formation, qui vont chez des gens, qui se retrouvent avec des gens, ils ne savent pas comment les prendre. Alors, ils nous font appel. Alors, souvent, de plus en plus, ça, je reçois des gens comme ça. Et maintenant, il s'est greffé les lycées sociaux qui nous envoient des élèves. Et tous les ans, je reçois des élèves pour.
Donc ça, c'est tout le volet formation.
Ça, c'est autre chose, ça.
Voilà, dont vous parliez tout à l'heure. Voilà. Donc, en fait, quand vous parlez de formation, est-ce que c'est.
C'est ça. J'étais soignante formatrice, donc voilà. C'est continué, donc ça. Ouais.
Et donc, vu ce que vous nous dites, il est vraiment très important d'étendre de plus en plus le réseau des bénévoles aussi, de recruter des bénévoles, parce que.
Alors là, je suis contente parce que, en fait, au groupe de parole, j'ai deux bénévoles qui viennent avec moi. Donc, une ancienne soignante là qui est là, et je voudrais bien je sens qu'elle a envie. Parce que ça, on ne peut pas débarquer comme ça du jour au lendemain.
Monsieur Horto nous disait qu'il y avait quand même une grosse formation en amont à faire.
Voilà, tout à fait. Tout à fait. Il faut avoir une connaissance. Je me rends compte qu'en fait, dans les soignants, on a déjà cette connaissance. Et après, on approfondit. Voilà.
On va. Oui, vous voulez ajouter quelque chose?
Non, je crois que Mireille a. Très bien terminé.
En fait, on s'aperçoit que ce n'est pas un bénévolat gratuit, où on vient, on arrive comme ça pour donner. C'est qu'il y a un gros truc, une grosse connaissance en amont à avoir, une grosse envie.
Nous avons tous subi d'ailleurs une formation avant de passer bénévole. Ouais. Hein.
Oui, c'est le passage obligatoire.
Mireille avait un avantage, c'est qu'elle était dans le métier. Oui. Alors que moi, pas du tout. Hein. Moi, j'avais absolument rien à voir avec le médical. Hein.
Mais ce qui veut dire que tout le monde peut devenir aussi bénévole que cette formation, elle est accessible
absolument.
À tous.
De toute façon,
Et cette formation est prise en charge par France Alzheimer. Et ça se passe dans le département.
Oui, absolument. Ouais. Hein, pour Blois, il y a eu la formation à Blois, donc.
Oui. Moi, à ce moment-là, ça se passait à Paris, à France Alzheimer, avec Judith Mollard, la grande psychologue de France Alzheimer Paris, qui est formidable. Moi, je suis ravie d'avoir côtoyé cette personne, parce que vraiment, elle nous a donné des bases vraiment formidables, que je n'avais pas eues au cours de ma formation professionnelle.
D'accord.
Et parallèlement aussi, nous avons la formation des aidants qui se fait.
D'accord.
À peu près deux fois pour Blois, deux fois par an, et à chaque fois c'est complet. Alors on travaille ensemble, la fille qui s'occupe de la formation des aidants, qui est avec une psychologue aussi. Souvent une fois, je reçois des gens du groupe et je leur dis, mais faites là aussi la formation des aidants, qui est 5 modules aussi.
Alors, et on s'aperçoit aussi que les bénévoles souvent viennent parce qu'ils ont été touchés directement par la maladie.
Aussi.
Oui. Il y a quand même des bénévoles qui arrivent et qui simplement par fibre, enfin je sais pas comment dire, il y a des gens qui ont pas de lien direct avec cette maladie qui deviennent néanmoins bénévoles.
Il y a beaucoup de personnes qui partent à la retraite et qui ne veulent pas forcément arrêter toute activité. Donc
c'est quand même mieux de
d'avoir une expérience antérieure.
Maintenant, vu l'ampleur que ça prend, c'est bien.
On comprend mieux les problématiques si on a été directement.
Mais nous, on a la chance d'avoir un réseau de bénévoles qui est formidable. On a beaucoup d'anciennes bénévoles qui ont été formées et qui connaissent très très bien leur job et qui sont, hein, c'est vrai, elles sont formidables. Oui, oui. Et puis dans les nouvelles qui arrivent, c'est des filles. Là, on a encore une autre qui vient d'arriver aussi, une soignante. Ma foi, ça aide.
Et les bénévoles, c'est surtout des femmes.
Et oui, nous avons deux hommes.
Et vous pouvez nous rappeler combien vous avez de bénévoles à France Alzheimer 41?
10.
Si on prend toutes les antennes, je crois que c'est une centaine de bénévoles.
Ouais, c'est ce que disait
Jean-Laure tout à l'heure. Ah oui, une centaine. Ouais. Nous sommes cinquantaine, et Jean a dû vous le dire.
Oui.
Et donc sur la centaine, il y a combien d'hommes?
Cinq.
Très peu.
Ouais, tous ces métiers.
Et ce qui est à remarquer encore une fois, c'est que le président est un homme, le vice-président est un homme.
Ah, oui.
Je suis contente de t'entendre dire ça.
Mais oui, mais. mais c'est encore.
Toi, t'as fait Gloria, hein, c'est sûr.
J'ai fait Gloria, j'ai fait la semaine L, et tout ça, progressivement, ça mûrit dans mon petit cerveau.
À bon entendeur.
On
recherche des bénévoles.
Vous n'aurez
hommes
jamais,
femmes,
assez, vous n'aurez jamais assez de bénévoles.
Voilà. Ouais. Tout à fait.
Non, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de malades. Oui, tout à l'heure, Mireille disait que maintenant, il y a de plus en plus de malades. Mais c'est vrai qu'avant, on n'en parlait pas. C'était un peu tabou, l'affaire. Hein.
C'est vrai. Mais quand même, si jeune, moi, je trouve qu'il y en a plus.
Oui. Bien sûr, oui.
J'en parlais avec les autres antennes et on le remarque aussi.
Mais enfin, on s'aperçoit quand même que les gens, maintenant, viennent plus facilement vers nous. Il n'y a plus de tabou. Donc, parce que c'est vrai que la maladie d'Alzheimer fut une époque, on disait, oui, ça m'a un peu fou, quoi. C'est ça. Hein. En fait, c'est pas ça du tout.
Non.
Hein. C'est une terrible maladie, la maladie d'Alzheimer. Hein. C'est une perte de mémoire, même chez les gens qui ont travaillé dans des domaines très, très intellectuels. Hein.
Ça touche vraiment tout le monde.
Il n'y a aucune catégorie sociale qui
fait ça.
Il y échappe à ce.
On est tous potentiellement concernés.
Et le drame, c'est quand les dents meurent avant le malade.
On a eu un cas.
Je crois qu'en France, il y a 30% des aidants qui meurent avant le malade. Voilà.
On va faire une petite pause musicale, encore une, et on, bien sûr, avant, on vous remercie vraiment sincèrement tous
merci
les deux chaleureusement.
Merci. Vous en prie.
C'est nous.
On se donne rendez-vous tout à l'heure pour le plateau suivant. On va être avec la DMR et l'organisme Les Myosotis.
D'accord.
Voilà.
Et ben moi, je termine en disant, n'hésitez surtout pas à venir nous contacter. Et amenez vos malades le mercredi après-midi.
Et venez au groupe.
Et voilà. N'hésitez pas non plus à venir là pendant les 24 heures et puis à faire une petite donation aussi faire avancer la recherche.
Tout à fait.
On a besoin de ça pour que ça avance. Même si le médecin, Monsieur Mercier, nous disait tout à l'heure que la science avançait à grands pas, mais il faut des moyens pour que ça avance.
Eh ben oui.
Il faut faire agrandir le pas.
Pas de géant un jour.
Merci beaucoup.
Merci.